Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui, on va vous parler d'Apple, encore d'Apple, mais d'une manière peut-être un petit peu différente, slash intéressante par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 531. Nous sommes en septembre 2023, j'ai failli dire 2017. Je ne sais pas pourquoi. 2023, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement Solid Panda. Solid Panda qui est peut-être en fait une sorte de serpent, on ne sait pas. Et les producteurs Julien D, Wacatp et Lancelot Davizard. Merci à vous tous et merci en particulier à Solid qui est venu rejoindre les Patriotes depuis la semaine dernière. C'est grâce à vous, que l'émission existe. Mais c'est aussi grâce à mes formidables, merveilleux, incroyables animateurs comme Marion qui est là aujourd'hui. Bonjour Marion, comment vas-tu ?
Oh là là, mais quel accueil ! Ça va super bien, très très contente de vous retrouver.
Vous le valez tous les deux, Marion d'une part, mais aussi Jeff en direct de la Silicon Valley. Bonjour Jeff, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va très bien. Et mon Patrick, joyeux anniversaire, 3 jours en avance. tu me rejoins dans la catégorie des 5-0. Bienvenue !
Tu sais, je...
je compatis.
Je commence à comprendre, tu sais, j'ai toujours été, peut-être que j'en parlerai un petit peu plus un jour, mais je me suis toujours considéré comme plus jeune que ma génération, en fait. Je ne me sentais pas en phase vraiment avec les gens de mon âge. Et maintenant, je commence vraiment à me rendre compte que même si je comprends les gens qui sont plus jeunes, je parle de, je sais pas, vingtenaire, trentenaire, même si je comprends leur code, même si je suis un petit peu immergé par certains aspects, ah, c'est plus la même chose, je fais plus partie de ce monde, quoi. Et même si je peux légitimement être adjacent, même si je pouvais légitimement être adjacent, ça ferait de toute façon « How do you do, fellow kids » quand je... Je sais pas, je suis en train de réévaluer ma vie, en fait. C'est le moment, en même temps, la cinquantaine, mais... ouais, je sais pas. Je suis circonspect avec cette étape que je passe. Je sais pas si j'en suis très content, en fait. Mais bon...
De toute façon, tu peux rien faire, donc
c'est un peu le problème.
T'acceptes. Moi, je viens de passer la mauvaise moitié des 50, puisque je viens d'avoir 56 ans. Donc ça veut dire que je m'approche des 60, ce qui est absolument horripilant. Mais bon, bah, tu l'acceptes et puis tu es en bonne santé, que tu fais ce que tu veux, ce qui te passionne, c'est l'essentiel.
Et l'essentiel, c'est l'essentiel. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Enfin, tu sais, en même temps, les gens qui te disent, les jeunes qui disent, oh, mais l'âge, c'est dans la tête. Attendez, vous verrez. Ouais, très bien. À propos, on pourrait y passer plus longtemps, mais on a des choses plus intéressantes à détailler. Comme par exemple, l'update sur FitPatrick. J'étais en France pendant une petite semaine et étrangement, FitPatrick était resté en Finlande. Donc je me suis dit, mais je vais revenir, ça va être la catastrophe, j'ai pas fait d'exercice, je me suis pas surveillé. En fait, j'ai seulement pris genre, je sais pas, 300 grammes quoi, quelque chose comme ça. Donc ça va être vite reparti, j'espère, et on continue sur le chemin de la fititude et de la fitness. Donc FitPatrick est de retour. Pour tous ceux qui s'inquiétaient, ne vous inquiétez plus, il revient. Et... C'est le sujet passionnant de l'émission. Là, on sent que vous êtes tous accrochés à vos téléphones. Écoutez, donc on va avancer avec les infos. Je dis les, mais en fait, il y en a une. C'est évidemment l'info de la semaine, la conférence d'Apple où ils ont présenté l'iPhone 15, la Watch 9, la Watch Ultra 2, les AirPods Pro 2 avec... machin de recharge USB-C. Ouais, c'est ça. Et je suis vraiment heureux de vous avoir tous les deux pour qu'on puisse parler de tout ça, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été ensemble et c'est la parfaite occasion pour se réunir. Mais j'aimerais qu'on en parle d'une manière un petit poil différent, parce que, pour être parfaitement honnête, on arrive peut-être que c'était cette conférence qui était un petit peu, pas ultra passionnante, mais je trouve qu'on arrive à un moment où, en fait, les updates d'appareils sont plus hyper, hyper intéressants. Alors, on y viendra dans un tout petit moment, et on parlera des nouveautés de l'Apple Watch, de l'iPhone, etc. Mais avant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'un autre aspect de la conférence qu'ils ont énormément mis en avant, notamment avec un sketch que certains ont trouvé un petit peu long, qui est la question de l'écologie. Alors, ça ne date pas d'hier hein, qu'Apple s'en préoccupe, mais là, ils ont vraiment appuyé au marteau sur le sujet. Et ils ont en gros dit qu'ils étaient en train de faire des énormes efforts et qu'ils étaient sur la piste, enfin, on track, qu'ils sont toujours, ils ont toujours l'espoir et qu'ils travaillent au fait d'être complètement neutre niveau carbone d'ici à 2030. Et j'ai donc vu beaucoup de réactions sur le sujet. Avant de partir sur ces réactions-là, je serais curieux d'avoir votre avis sur la chose et sur les efforts d'Apple en particulier, parce qu'évidemment, il est assez normal de se demander si ce n'est pas un petit peu de greenwashing et que, bon, ils parlent beaucoup et ils ne font pas grand-chose. Marion, est-ce que tu as un avis spécifique sur la chose, sur les efforts d'Apple et peut-être les efforts qu'on a vus et la manière dont ils les ont présentés cette fois-ci.
C'était intéressant parce qu'ils y sont pas allés
de main morte.
Voilà. Ouais, voilà. Et quand même, l'actrice, en plus, ils n'ont pas choisi n'importe quelle actrice. L'actrice a un physique où elle fait passer beaucoup, beaucoup d'émotions à travers ses expressions de visage. Elle est juste géniale. C'était une mère nature avec un sacré caractère qui a vraiment demandé des comptes dans le sketch, qui a demandé des comptes à Apple, tout en se moquant justement du greenwashing. Donc, c'était intéressant. Après, est-ce que les promesses d'Apple vont être plus que des promesses et est-ce qu'ils vont réussir à relever les défis qui se sont eux-mêmes fixés ? C'est une vraie question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air d'avoir vraiment un parti pris ici d'être l'exemple pour les autres sociétés, d'établir des nouveaux standards sur justement l'impact sur l'environnement. En tout cas, c'est ce que Tim Cook disait dans des interviews récemment. Il veut qu'Apple soit une société qui donne les standards pour que les autres sociétés les suivent. Est-ce que ça va marcher J'en sais rien. Est-ce que c'est plus que du greenwashing? Pour l'instant, j'attends un peu plus de preuves. Tangible.
Je pense qu'on est tous un petit peu dans cette situation. Pour être clair, la grosse annonce, on va dire, au-delà du fait que... alors, ils n'auront plus de plastique dans leurs emballages d'ici 2025, plus du tout. Ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Il y a des choses comme le fait qu'il n'y ait plus de cuir. Ils n'ont plus de bracelets en cuir, d'étuis en cuir, etc. Ils ont également la grosse annonce qui était que l'Apple Watch... Alors, une version de l'Apple Watch avec certains bracelets est neutre au niveau carbone. Donc ça, c'était la grosse annonce. Et l'autre chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est que d'ici 2030, toutes leurs opérations seront neutres au niveau carbone. Et déjà, même quand on dit neutre au niveau carbone, on se demande, bon, bah, y a combien de compensations, quoi ? Est-ce que c'est vraiment neutre ? Mais en tout cas, il est possible aujourd'hui d'acheter une Apple Watch avec certains bracelets qui sont neutres au niveau carbone. Jeff, même question un petit peu. En tant qu'observateur averti, comme Marion, en tant qu'impliqué dans cette industrie, est-ce que pour toi, ça fonctionne, le message d'Apple ? Tu restes dubitatif ? Comment tu le reçois ? Et j'ai des commentaires à faire après sur la véracité des choses, donc je vous dirai ensuite ce qu'il en est.
Bah, je pense que vu la criticité du phénomène, c'est-à-dire, tu vois aujourd'hui, 2023, c'est l'année la plus chaude qui a été vue par la planète. On a des tonnes de désastres. Qui sont un peu nouveaux, donc des tempêtes tropicales, pas bon endroit ou pas au bon moment, etc. Donc c'est important que tout le monde s'y mette. Donc de ce côté-là, je salue Apple pour son volontarisme sur le sujet. le fait de le tourner un peu en blague, je suis pas sûr que c'était la bonne façon de l'approcher. Tous les efforts qu'ils font, c'est mieux que rien. Je pense que ça suffit pas, malheureusement. On a dépassé le degré et demi de réchauffement de la planète que tout le monde disait, c'est si on dépasse ça, on est foutu. On vient de le dépasser. Donc, à quoi ça sert d'avoir une Apple Watch qui soit carbon neutral? Pas grand-chose, mais c'est important dans le message, et c'est important de dire une boîte aussi importante qu'Apple s'en occupe et essaie d'avoir les crédits, à la fois les modifications de leur processus et des matériaux, et évidemment, comme tu le disais, l'achat des crédits carbone qui leur permettent d'être neutres. C'est bien, mais ça, c'est pas ça qui va nous permettre d'avoir une planète qui va pas nous péter à la tronche, quoi.
C'est marrant parce que je pense que vous synthétisez un petit peu tous les deux les impressions qui sont, à vrai dire, pour moi aussi, les impressions générales par rapport à ce type de discours. De tout ce que j'en ai lu, j'en ai lu beaucoup, et il se trouve que, en plus de ça, ma femme travaille dans un domaine qui est vraiment connexe à ces sujets, et donc elle connaît un petit peu la réalité, ou en tout cas à un degré de séparation des efforts que font Apple. Et en plus, j'ai lu beaucoup, il y a un article très intéressant de Steven Sinofsky qui parle de ces sujets. Et en gros, je mettrai l'article de Sinofsky dans la newsletter, mais en gros, ce qu'il en ressort, mon impression à moi, en ayant creusé un tout petit peu, je ne suis pas allé voir les rapports non plus directement, donc je lis les impressions et les analyses de ceux qui l'ont fait, ce qu'il en ressort, c'est que même les plus critiques, en fait, ce qu'ils ont à dire, c'est « Oui, l'Apple Watch, c'est bien, mais il ne faut pas avoir l'impression que du coup, tout va bien et que du coup, tout est bon du côté d'Apple. » Par contre, de l'autre côté, donc ça, c'est l'avis le plus critique, mais de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des efforts concrets et réels que fait Apple, qui, d'une certaine manière, leur bénéficie aussi, parce que ce que dit notamment Sinofsky, c'est que, comme on le sait depuis longtemps, mais ce qu'il relève, c'est que quand tu réduis la taille du packaging, ça veut dire que ça prend moins de place et moins de poids à transporter, et donc c'est bon pour ton business, etc. Il y a tout un tas de raisons qui font que c'est très bénéfique pour Apple, au sens très premier du terme, et ça leur génère des bénéfices en plus. Donc ils le font aussi pour eux, mais par contre, les efforts sont réels. Et ce que j'entends, effectivement, c'est que ce que fait Apple va bien au-delà. Je ne veux pas utiliser de superlatif non plus, mais vous sentez que je me retiens un petit peu, parce que ce que fait Apple va bien au-delà de ce que font les autres dans l'industrie et sont des efforts réels et sensibles. Alors, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de domaines à couvrir. Et quand ils vous disent alors tout notre aluminium dans nos appareils sont recyclés, tu dis, OK, l'aluminium, très bien, mais tout le reste, on en est où? Donc, il y a plein de choses à dire. Mais ce que je retiens de moi, ma petite investigation, mini, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais mon impression, en ayant regardé un petit peu tout ce qui se faisait dessus, c'est que ce n'est pas du greenwashing. C'est tourné de manière, évidemment, à ce que ça les fasse briller, mais ce n'est pas vraiment du greenwashing. Ils font vraiment des efforts. Et quand Tim Cook dit « on veut montrer l'exemple, on veut montrer la voie », il y a effectivement quelque chose derrière. Si, disons que les autres sociétés... Alors évidemment, c'est plus facile pour Apple qui a moins de produits, qui a de quoi... Un truc, là encore, que dit Sinofsky, c'est qu'ils contrôlent tout dans leur chaîne de production et ils ont investi dans des choses comme des machines pour de l'aluminium, etc., qui coûtent très cher et qui sont des investissements qui prennent des années. Mais c'est des choses qu'ils ont pu faire parce qu'ils sont Apple. Est-ce que les autres pourront le faire? C'est pas sûr. Mais un autre aspect, donc ça, c'était le premier aspect que je voulais évoquer, et un autre aspect dans ma veille qui est large, qui ratisse large, un autre aspect qui m'a marqué dans les reviews et les impressions sur la keynote, c'est à quel point les reviewers... Enfin, la manière dont les journalistes tech parlent de ces choses-là me paraît aujourd'hui un petit peu anachronique, parce que beaucoup en parlent comme ils en ont toujours parlé et comme elles en ont toujours parlé, en se demandant... En fait, la manière dont ils analysent les annonces et les produits, c'est est-ce que ça vaut le coup d'upgrader par rapport au modèle de l'année dernière ? Et vraiment, j'en ai lu plusieurs. Hein. J'en ai lu une bonne partie de la presse tech anglophone principalement, mais pas forcément uniquement. Encore que j'ai l'impression qu'en France, on en parle un petit peu plus avec le recul de... C'est pas forcément... Mais vraiment, on a l'impression que les journalistes tech ont le modèle de l'année précédente. Et la question qui se pose, c'est comme en 2015 ou en 2014 ou en 2016, c'est comme à cette époque. Alors, j'ai le modèle de l'année dernière. Est-ce que ça vaut le coup de upgrader pour le modèle de cette année? Et cette petite nuance me paraît aujourd'hui presque inimaginable, quoi. C'est plus le sujet aujourd'hui. Mais tous disent, alors, oui, c'est pas une énorme upgrade, bon, c'est pas incroyable, parce qu'il y a ça et ça en plus, par rapport à l'année dernière. Moi, ça m'a un petit peu choqué, cette vision, alors que, soyons très honnêtes, hein, il y a 2 ans ou 3 ans, j'y pensais pas du tout. Enfin, ça m'aurait pas choqué il y a 2 ans ou 3 ans, donc je veux pas non plus me poser en exemple du tout. Mais c'est juste qu'aujourd'hui...
Ouais, mais en quoi ça te choque? Parce que de toute façon, c'est le cas depuis des années. Enfin,
mais c'est ça.
Qu'on prenne juste une mesure. Le premier rendez-vous tech, on parlait de l'iPhone 4. Mm-hmm. D'accord? 13 ans plus tard, on parle de l'iPhone 15. Et donc, au bout d'un moment, bah, c'est ta réflexion. C'est bon, quelles sont les fonctionnalités? Quel est mon besoin par rapport à cette nouvelle version de l'iPhone qui fait que je vais effectivement upgrader.
Non, mais c'est ça, c'est que moi, je pense que les gens aujourd'hui ne veulent plus upgrader d'une année sur l'autre, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'ils nous parlent tous comme si le monde entier avait l'iPhone 14 et se demandait, alors, est-ce que j'ai besoin de l'iPhone 15? Alors que la manière à laquelle on y réfléchit aujourd'hui, je crois, c'est, bon, j'ai l'iPhone 13, l'iPhone 12, est-ce que j'ai besoin du 15? Pas l'iPhone 14, pas celui de l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus comme ça qu'on regarde les choses, je crois, en tout cas dans mon... Non, Marion, vas-y, Jeff finit quand même.
C'est aussi ton cycle d'upgrade, c'est-à-dire que moi, j'ai mon téléphone via AT&T, et donc AT&T va t'offrir une upgrade gratuite, ce qui n'est pas gratuit du tout, mais en gros, ils te disent, si tu veux upgrader tous les 2 ans, c'est géré par ton plan, si tu veux upgrader plus rapidement, tu vas devoir payer plus. Donc, en gros, ce que tu fais, c'est...
T'as une opportunité de le faire, quoi.
Tu laisses pisser pendant, tu vois, 2 cycles, et puis le 3e cycle. Tu vois, j'étais sur l'iPhone 11, je suis passé sur l'iPhone 14. Très bien, super, plein de...
Ah oui, non, mais c'est ça, c'est de ça que je parle. Je veux dire, passer du 11 ou 12 ou machin au 14 ou au 15, je comprends. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que partout, j'entends parler du 14 au 15. C'est ça qui me... Enfin bon.
Mais ça, pour moi, c'est même... Ça remonte à déjà plusieurs années. Il n'y a que les fans d'Apple qui vont toujours chercher à une raison, à un prétexte, parce que c'est même plus une raison à ce niveau-là, c'est un prétexte pour upgrader chaque année. Mais ceci, est-ce que tu vas pouvoir les empêcher? Parce qu'en fait, comme je disais, ils ne cherchent pas une raison rationnelle. Là, ils veulent juste une excuse pour pouvoir justifier un achat dont ils ont envie, et c'est leur problème, j'ai envie de dire.
C'est un statut d'avoir le nouveau.
Aussi.
La dernière version de l'Apple, de machin. Et donc, ils vont upgrader de toute façon, mais ça fait...
Et même le Pro, d'ailleurs. Ouais. Entre le 15 et le 15 Pro, il y a encore
un
effet.
Au début, j'achetais un iPhone tous les... à chaque fois, parce qu'il y avait
c'était incrémental. Hein, oui.
Donc, que ce soit du 1 au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, et je sais même plus à quel moment j'ai arrêté, parce qu'en fait, ça devenait essentiellement, caméra un peu mieux, 2-3 fonctionnalités, machin, mais comme beaucoup de l'innovation se passe dans iOS, et que tu peux bénéficier d'iOS de toute façon, voilà quoi.
Bah moi, je suis un petit peu dans cette situation. J'ai toujours mon 12 et je me souviens que l'année dernière, je me disais, bon, j'ai passé une année, je vais en prendre un nouveau là avec le 14. Puis j'avais laissé passer 15 jours et je m'étais dit, non, allez, je prendrai l'année prochaine, je prendrai le 15. Allez, je laisse couler. Et cette année, j'étais vraiment sûr. Je me suis dit, si, je vais prendre le 15. Allez, du 12 au 15, c'est raisonnable. En plus, j'ai laissé passer 3 ans. Bravo Patrick, je me tape sur l'épaule moi-même. Tu sais, c'est moi qui sauve la planète. Et là, je me demande quoi. Je me demande si je vais pas, pour le coup, faire un petit effort et me dire, je le laisse passer, mon 12 marche très bien. Je suis pas encore sûr. Hein. Ça se trouve, dans 2 semaines, je vous dis, ouais, j'ai mon iPhone 15, il est trop beau. Mais je me demande. Peut-être que je le laisserai passer également. Mais il y a certains, évidemment, certains journalistes qui parlent du cycle réel, hein, qui est aujourd'hui celui de renouvellement des gens normaux, parce que là, on parle des fans d'Apple ou des journalistes tech, c'était d'eux que je parlais spécifiquement, mais la plupart des gens normaux laissent passer 2, 3, 4 ans, parfois plus, hein, avant de changer de téléphone, que ça soit un téléphone iOS ou Android. D'ailleurs, Jérôme, notre ami de Nowtech, a fait une vidéo qui vous explique pourquoi il faut réfléchir avant de se jeter sur un iPhone 15. Et il donne plein de raisons pour ne pas se jeter dessus. Et puis après, il termine mal, malheureusement, en donnant des raisons de l'acheter quand même. Il dit genre, quelles sont les bonnes raisons? Je vous mettrai là encore la vidéo dans la newsletter. Mais du coup, parlons des nouveautés, hein, spécifiquement. Donc, je vais vous les lister. Ça ne va pas prendre très, très, très longtemps sur les différents produits. L'Apple Watch 9, en gros, il y a un nouveau processeur. Elle a un écran plus lumineux, ce genre de choses. Mais la vraie nouveauté, c'est le double tap. C'est quoi? C'est un geste qu'on peut faire quand on a la montre au poignet. C'est que si on tape l'index et le pouce deux fois rapidement, eh ben, ça peut faire une action sur la montre. C'est marrant, c'est des technologies qui ont été développées et imaginées pour des interfaces de contrôle de réalité virtuelle, là où on n'a pas accès à un clavier ou ce genre de choses. C'est marrant que Apple l'implémente sur sa montre, de manière assez intelligente d'ailleurs. Donc ça peut faire des choses comme... bref, on peut attribuer différentes applications, différentes actions sur la montre. C'est plutôt malin. Ça sera disponible d'ici un mois à peu près. On peut répondre à un appel, utiliser le bouton principal, prendre une photo, etc. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus héritent du processeur des versions Pro de l'année dernière. Et il y a un nouvel écran plus lumineux là aussi, un design un tout petit peu revu. Et surtout, la caméra principale du Pro de l'année dernière, donc en 48 mégapixels qui peut réunir les pixels pour faire des photos plus lumineuses si nécessaire, ou alors carrément utiliser tous les pixels pour faire une super résolution, etc., etc. Il y a une nouvelle génération de portraits, de mode portrait, qui est en plus en auto, c'est-à-dire que quand il repère des visages, eh ben, il va prendre les informations de profondeur et vous permettre de modifier le portrait après coup, ce qui est plutôt pas mal. On n'a pas besoin de passer en mode portrait pour ça. Il y a aussi une assistance réservée aux États-Unis, mais une assistance par satellite pour les accidents de voiture, genre si on a une panne, quoi, et qu'on est, je sais pas, au milieu du désert aux US et qu'on n'a pas de réseau, eh ben, on peut demander à notre assurance voiture de venir nous dépanner. Donc ça, c'est pour l'iPhone 15 et plus normal. Pour le Pro, on a l'armature en titane qui est plus légère, du coup là, le téléphone est plus léger, des bords plus fins, un bouton d'action sur le Pro et pas sur le non-Pro, donc un bouton d'action à la place du commutateur de mode silence, donc auquel on peut attribuer différentes fonctions là encore, un nouveau processeur, donc on a vraiment cette différence entre le Pro et le non-Pro, pour pousser les gens à acheter du Pro et donc à augmenter le panier moyen, on va dire. Un nouveau processeur qui fait plein de trucs incroyables. Bon, en gros, il fait du ray tracing, il est plus rapide sur le moteur neuronal, plus de processeurs graphiques, etc. Et même pour l'USB-C, je ne l'ai pas dit, mais l'iPhone 15 normal passe à l'USB-C également, mais l'USB-C en mode USB 2, là, on a de l'USB 3 à 10 gigabits par seconde sur le Pro, ce qui est plus cohérent avec une utilisation Pro, on va dire. Et bon, un appareil photo un petit peu amélioré là encore, particulièrement sur le gros modèle, le Max, qui a un zoom x5 en optique, grâce à une sorte de design tétraprisme machin, pas stéréoscopique, mais kaléidoscopique, non, c'est pas ça. Périscopique, voilà. Bref. En gros, là, j'ai vraiment listé toutes les nouveautés intéressantes. Peut-être que j'en ai oublié une ou deux, mais je pense que je les ai toutes listées. Bon, c'est pas fou, quoi. Certainement, je pense qu'il est difficile de justifier un achat de l'année précédente. Mais c'est pas incroyable, voilà. C'est comme un petit peu tous les ans, peut-être même encore moins à dire, je dirais, que les années précédentes. Je sais pas si vous avez été émerveillé, Marion. Tu as eu des étoiles dans les yeux à cette keynote avec les nouveaux produits.
Ah non, pas du tout, mais c'est à ce à quoi il faut s'attendre. Désormais, on est sur un marché très mature. et c'est un produit qui a plus de 10 ans, bon, ben, voilà, c'est, ça va dans l'évolution de la tech. Maintenant, on va, ce qui va générer de l'excitation, ça va être les applications de l'intelligence artificielle.
Est-ce qu'il y a des choses spécifiquement qui t'ont plu dans ces annonces ou vraiment rien qui t'a parlé
Ah bah moi c'est l'USB-C, enfin USB-C, moi, oui. Je comprends pas cette régression d'Apple d'avoir 36 000 connecteurs différents sur leur gamme de produits, c'est insupportable. C'est une prise de tête à chaque fois que tu dois te déplacer quelque part, d'être sûr d'avoir tous les branchements dont tu as besoin. Donc j'ai mon Mac en USB-C, j'ai mon iPad en USB-C, mais j'ai mon iPhone et mes AirPods en Lightning. Et je me suis dit, ah bah je vais changer, sauf qu'en fait je me suis aperçu que j'ai mon clavier qui est encore en Lightning, donc ça m'agace.
donc il faut tout racheter. Voilà,
bah. Écoute, on va commencer progressivement avec les D'accord. AirPods et l'iPhone, mais ça fait déjà pas mal, et du gâchis, enfin des déchets aussi. Parce que ça, tu vois, un truc qu'ils n'ont pas mentionné sur leurs initiatives d'environnement, c'est que de mettre au rebut le Lightning, qu'est-ce qu'on en fait de tous nos câbles et accessoires Lightning ? Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose, une reprise, un recyclage, un programme de recyclage ? Rien du tout, alors que ça va créer du déchet, certes demandé par l'Union européenne et au final,
avec raison,
c'est
quoi.
Positif. Avec raison, exactement. Ils ont eu tout à fait raison de taper du poing sur la table, mais ils n'ont rien proposé, Apple, pour gérer ça.
C'est vrai que... Alors, je pense qu'ils n'ont vraiment pas voulu le présenter comme c'est une mauvaise chose, donc peut-être qu'ils ne voulaient pas teinter le truc dans le cycle de news en disant « Et on a un programme pour récupérer vos vieux câbles pourris que vous allez tous devoir changer. » Ce que je peux comprendre, mais peut-être que ça viendra après. Mais en tout cas, je pense que tu as tout à fait raison. Il faudrait un programme où, une fois qu'on n'a plus d'appareil en Lightning, bah on ramène tous les câbles et ils s'occupent de le recycler. Ça serait une bonne chose. Ouais. C'est vrai. Tu parlais des AirPods. Il y a aussi un nouveau modèle d'AirPods qui, en fait, n'est pas vraiment un nouveau modèle, mais un peu quand même. Les AirPods Pro 2 bénéficient désormais d'un boîtier, voilà, un boîtier de rechargement en USB-C, sauf que l'architecture des AirPods change un tout petit peu et on pourra les connecter au Vision Pro, au casque de réalité augmentée virtuelle, de réalité mixte d'Apple qui n'est pas encore vraiment disponible, mais on pourra les connecter pour avoir du son avec une latence minimale et du son non compressé, en vrai lossless. Donc, c'est un modèle, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec les AirPods Pro 2 avec boîtier Lightning. C'est uniquement les AirPods Pro 2 avec boîtier USB-C. Je pense qu'ils n'ont pas voulu en faire des tonnes parce que les Pro 2 sont sortis l'année dernière. Mais du coup, je suis content d'avoir attendu un peu. Et puis, c'est minime. On peut se dire que l'année prochaine, par exemple, sur le prochain iPhone Pro, peut-être même l'autre, bah, on pourra utiliser ces appareils, ces AirPods Pro 2 avec boîtier USB-C, c'est le nom officiel, pour avoir ce son de meilleure qualité avec les téléphones également, c'est possible. Il y a quelque chose qui t'a marqué, Jeff, toi, dans les nouveautés, ou là encore, on est bon, c'est un nouveau téléphone, voilà, c'est pas fou, quoi.
Ouais, je fais même pas attention. C'est-à-dire que je regarde je regarde pas la keynote, je joue à foutre.
C'est dingue quand même. Regarde, que nous on dit ça, moi je la regarde pour le boulot, quoi. Sinon, je la regarde d'arrêt quand même. Mais ouais, que toi tu la regardes plus, c'est marrant.
Parce que de toute façon, je m'attends. J'ai le 14, donc la prochaine upgrade sera probablement le 17. Parce que c'est à ce moment-là que l'iPhone sera suffisamment vieux pour que ça justifie la dépense et le. Et puis tout le bordel que c'est d'upgrader de téléphone, quoi. C'est chiant. C'est un bazar pas possible. Et donc, j'ai noté effectivement le fait qu'il va falloir changer tous les putains de câbles. Parce que Dieu seul sait, je dois en avoir une douzaine dans différents endroits, différentes voitures, différents sacs et valises et machin. Mais bon, c'est bien que ce soit standardisé, finalement. On y arrive, c'est bien. En termes de fonctionnalité, bon, je suis pas Apple Watch parce que l'Apple Watch, pour moi, j'ai besoin de quelque chose qui va durer 4-5 jours en termes de charge. Donc, je suis fidèle à mon Fitbit Versa 2. Et puis, voilà quoi, j'ai juste acheté l'Apple Display qui coûte une blinde pas possible. C'est 1 600 $ aux États-Unis, c'est incroyable. Ouais. C'est une arnaque, mais bon.
Ah, tiens, à propos de prix. Oui, parce que là, tu quittes un petit peu cette conf spécifiquement, mais à propos de prix, il y a une news quand même qui est importante.
Oui, c'est vrai.
C'est que les appareils, d'une manière générale, sont soit au même prix, soit moins chers. Incroyable. Et c'est dû au taux de change. Hein. Et c'est dû au taux de change. On n'aurait pas été surpris s'ils avaient gardé le même prix que le prix qui a augmenté l'année dernière à cause du taux de change qui était moins favorable à l'euro. Là, en fait, ils baissent de prix environ, on va dire, entre 50 et 100 euros par appareil. Est-ce que ça indique aussi le fait que ces appareils ne sont pas totalement, aussi attirants peut-être qu'on en a l'habitude ? C'est possible, je ne sais pas. Et c'est notable qu'ils soient moins chers que les équivalents de l'année dernière, quoi. Au moins cher ou au pire, au même prix dans certains cas limite, mais...
J'aurais juré qu'il était 100$ plus cher ici, mais bon, peut-être que j'ai mal entendu.
Alors, c'est possible qu'en dollars, ça soit plus cher, mais en euros, c'est moins cher.
Faut le signaler, oui, c'est entre 50 et 150 euros moins cher en France. Hein.
C'est dingue. Hein.
C'est quand même important.
Alors bien sûr, avec le Pro Max, il y a genre une capacité la moins importante qui saute. Donc bien sûr, ça fait que le modèle est genre au prix du... Le premier modèle est plus cher. Mais oui, donc bon, c'est à signaler aussi quand ça arrive. On se plaint quand les prix augmentent. On peut mentionner quand les prix baissent un tout petit peu. Quoi. Enfin, un tout petit peu, c'est sensible.
Oui,
bon, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de cette conférence Apple. Hein. Voilà, je pense que c'est celle dans laquelle on a le moins parlé des nouveautés technologiques. C'est peut-être une réflexion sur la nature de l'émission et de nos préoccupations depuis 15 ans. Il y a évidemment... alors, au moment où on enregistre, on est à peu près au moment où les nouveaux OS sont disponibles. Donc, il y a plein de nouveautés pour ça aussi. C'est un petit peu aussi pour ça que c'est quand même on a un petit truc nouveau avec nos appareils, donc ça fait peut-être un petit peu moins mal de ne pas changer de téléphone alors que ça nous démange. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Je vais installer mes nouveaux OS, et donc ça sera marrant de jouer avec 2 minutes, se plaindre que la batterie tient moins longtemps, parce qu'évidemment, on est dessus 15 heures par jour à essayer les nouveaux jouets. Et puis peut-être que je laisserai passer du coup mon tour pour l'iPhone 15 Pro, et j'attendrai le prochain. Par contre, AirPods...
Je sens dans le ton de ta voix que t'es triste, quoi. On sent que c'est à contre-cœur.
L'année dernière, c'était pas vraiment un effort, c'était juste « bon, allez, c'est pas grave ». Cette année, j'aimerais bien, quand même. J'aurais bien aimé l'année dernière, mais cette année, je m'étais dit « allez, c'est bon, USB-C, machin ». Donc, j'ai quand même, tu vois, c'est un tout petit mini effort, quoi. Mon 12 Pro, il marche super bien, il n'y a aucun problème. Mais oui, un petit peu, je me dis « oh, j'aimerais bien ce machin, pour le boulot, tu vois ». Et puis là, je me dis « non, on va voir ». Les AirPods Pro 2, là, j'ai attendu un petit moment parce que j'avais le premier modèle. Et les AirPods Pro 2, ça, par contre, comme vous le savez, c'est l'appareil que j'utilise le plus de ma vie. Donc, je vais en acheter. Ça, oui. Donc, voilà, je me dis, j'aurai un truc.
C'est pas mal.
C'est pas mal quand même. Écoutez, on va pas parler de Patreon aujourd'hui, mais restez à l'écoute, puisque je vais vous parler du sponsor de cet épisode qui a la gentillesse de financer notre émission, c'est NordVPN. Et comme je vous disais la semaine dernière, ils ont pris 2 semaines. Hein. On va voir, donc là, c'est la dernière promo, votre dernière chance de bénéficier de l'offre incroyable qu'ils vous font. Et comme je vous disais l'année dernière, n'oubliez pas l'épisode numéro 434 qu'ils avaient déjà sponsorisé, voilà, je trouve mes mots, où on avait parlé du métier de pentester qui était absolument passionnant, la manière dont les gens testent les vulnérabilités des sociétés, c'était super intéressant, avec Stéphane. Et du coup, j'ai l'occasion de vous reparler de NordVPN. Alors, vous savez ce que c'est qu'un VPN. Comme je vous le disais de la semaine dernière, il y a des bénéfices à utiliser NordVPN spécifiquement parce que, alors, ils n'archivent pas les données. Hein, vos données de navigation, si qui que ce soit vient les voir et veut les demander, bah, ils ne les ont pas. Donc, ça règle la question. Mais il y a aussi des fonctionnalités cool comme le split tunneling. Ça, c'est un truc qui est hyper cool. C'est que vous pouvez faire en sorte que certaines applications de votre ordinateur utilisent le VPN et d'autres ne l'utilisent pas. Donc, soient connectées en direct sur votre connexion classique. C'est hyper pratique. Et il y a un autre truc qui est hyper pratique, c'est le Mesh Networking, qui est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment étonnant. C'est en fait un réseau local qui est établi entre vos appareils qui sont connectés à votre compte NordVPN. Et du coup, ça fait un réseau local, même si vous êtes très loin. Moi, je l'ai utilisé, par exemple, pour le transfert de fichiers, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Ça fait un LAN, en fait, un réseau virtuel privé, privé, juste pour vous. Ça vous fait votre propre réseau virtuel privé, à vous. C'est hyper intéressant comme possibilité, et c'est inclus dans NordVPN. Mais il y a aussi un autre outil que vous propose la société, c'est NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe. Et j'espère, vraiment, j'espère qu'aujourd'hui, vous savez qu'il est indispensable d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Enfin, on a des dizaines, peut-être même des centaines de services différents qu'on utilise. J'espère que vous n'avez pas des mots de passe que vous essayez de retenir vous-même et donc que vous utilisez le même partout ou qui sont dans un calepin ou je ne sais quoi. Vous utilisez un gestionnaire de mots de passe. Et vu que vous devez utiliser un gestionnaire de mots de passe et que c'est fort pratique d'avoir un VPN, d'autant plus quand on va dans un, on a utilisé un Wi-Fi public ou ce genre de choses. Moi, je me dis, j'en ai toujours un dans la poche, comme je le dis, et je peux l'utiliser si j'en ai besoin. Eh bien, si vous avez besoin des deux, et je pense que à peu près tout le monde a besoin des deux, ben autant mettre les deux dans le même package, utiliser une promo incroyable qui est la promo que vous pouvez avoir sur nordvpn.com/rdvtech, qui est de 2 ans avec 68% de réduction, plus 3 mois gratuits. En gros, hein, je vous la fais courte, ça vous revient à 3,99€ par mois pour le VPN et NordPass, et le gestionnaire de mots de passe. C'est vraiment un prix qui me paraît hyper raisonnable. Et en plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc, vous allez sur nordvpn.com/rdvtech, vous l'essayez. Si vous ne l'aimez pas au bout de 10 jours, 20 jours, 29 jours, vous pouvez vous faire rembourser sans aucune question. Donc, il n'y a aucun risque. Allez-y, regardez si ça vous intéresse. Jetez-y un coup d'œil. Et moi, je vous remercie d'utiliser l'URL nordvpn.com/rdvtech. Comme ça, ils savent que vous êtes venu de ma part. nordvpn.com/rdvtech. Merci à eux de sponsoriser cet épisode. Alors, on parlait de hacking à l'instant. Il y a une vidéo hyper intéressante qui sera dans la newsletter. Là, je vais vous dire très rapidement, je vais passer les deux dans la newsletter, mais on a d'autres sujets qu'on veut évoquer. C'est une vidéo de Micode, underscore, sur sa chaîne underscore, où il parle de la manière dont l'IA peut créer des failles de sécurité. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, en utilisant par exemple ChatGPT, on peut aller consulter des sites web, et dans ces sites web, il peut être inclus des instructions pour ChatGPT pour lui faire faire des choses que vous n'avez pas demandé. C'est-à-dire que dans votre conversation avec une IA, si elle va consulter le web, l'IA ne fait pas la différence entre les instructions que vous lui donnez et un bloc de texte, le bloc de texte du contenu de la page que vous consultez. Donc, en gros, je schématise, si quelqu'un de malveillant a inclus des instructions, peut-être même qu'elles sont cachées dans la page web, ben, ChatGPT, il va voir cette page web et il va lire les instructions. Il va se dire « Ah oui, c'est pour moi ça. Ok, donc je vais le faire. » C'est hyper intéressant. La vidéo sera dans la newsletter. C'est la dernière vidéo. Je crois que c'est la dernière. Non, il y a quelques jours, Micode sur sa chaîne underscore. Et puis, il y a une autre vidéo super intéressante de Sabine Hossenfelder, qui est l'une des youtubeuses, des vulgarisatrices scientifiques que j'adore. Elle parle de la manière dont les rapports sociaux sont différents en ligne par rapport à la communication, la communication classique où on est en face l'un de l'autre. C'est hyper intéressant, d'une part pour les communications classiques et également pour les relations parasociales, c'est-à-dire les relations qu'on a avec des personnes qui, elles, n'ont pas de relation avec nous. Par exemple, les célébrités, on a une relation avec elles, ou les influenceurs. Hyper intéressant cette vidéo. Vous connaissez la chaîne de Sabine si vous me suivez, parce que j'en parle tout le temps. Mais cette vidéo est super bien. Je la mettrai dans les notes de l'émission aussi. Une info rapide que je voulais vous faire passer, c'est le fait que comme on le pensait, en tout cas je le pensais, la chaîne dont je vous parlais il y a une semaine et deux semaines de Anis Ayari de Defend Intelligence, vous vous souvenez, il s'était fait bannir de Twitch pour un truc que son IA avait dit, qui était en plus dans un contexte complètement compréhensible, bah, elle a été débannie de Twitch. Donc heureusement, ça s'est bien terminé au final. La chaîne a été débannie, il est de retour sur Twitch pour ce qu'avait dit son IA Emmanuel Macron. Des news, effectivement, dont on peut parler, toujours à propos de l'IA, et j'imagine que peut-être que Marion aura un avis sur la chose, puisqu'elle est particulièrement fan de musique. Il y a visiblement des morceaux du nouvel album de Harry Styles qui ont leaké et qui sont arrivés sur des Discord. Et le truc qui est vraiment intéressant par rapport à la tech, c'est que les fans de Harry Styles n'arrivent pas à déterminer si c'est des vrais leaks d'un petit peu mauvaise qualité ou si c'est des trucs qui ont été générés par IA. Et ça, j'avoue que je suis un peu... C'est dingue parce que... Enfin, c'est dingue. Non, là encore, comme les trucs dont on parlait la semaine dernière, on les voyait venir. Et là, on y est. Et on sait qu'on ne réussisse pas, que même les fans ne réussissent pas à savoir si c'est des vrais morceaux ou des trucs générés par IA, ça me surprend quand même un peu. Tu as noté ce genre de choses dans l'industrie de la musique déjà ou là, c'est une première avec Harry Styles?
Ah bah non, ça fait depuis le lancement même, enfin depuis le début de l'année, là qu'on voit des morceaux qui buzzent sur TikTok ou en ligne de mash-up ou de duo d'artistes. Et en fait, on s'aperçoit quelques jours après que genre, en fait, c'était juste une IA, quoi.
Ah oui, au départ, on ne sait pas. C'est ça, c'est pas qu'on se dit « Ah bah voilà, c'est un truc qui a été fait par IA ». Mais au départ, les gens se disent « Oh, c'est dingue, ils ont collaboré ».
Exactement.
Et là, ah oui, d'accord.
Exactement. Donc, ça fait un quelques temps déjà qu'on voit ça arriver. Je trouve ça assez, assez intéressant, en fait. Après, ça reste la notion de l'art. Comment dire ? Je pense que d'un côté, il va falloir protéger les artistes sur cette valeur qu'ils ont de créer. Et de faire de l'art. Après, tu pourras jamais empêcher les fans de s'approprier ce qui existe et les outils qui existent en ligne. Mais est-ce qu'à la fin, tu trouveras la même qualité en termes de qualité de production, de richesse du son, des paroles, etc. J'en doute.
Disons que là, c'est les fans qui sont pas sûrs, qui savent pas. Mais peut-être que c'est Harry Styles aussi. Là, tu te dis, oh, pff, ouais, c'est bon, quoi. Je me trompe pas, c'est un ancien d'un boys band.
Je te trouve très...
Non, mais je plaisante. Mais c'est pas un ancien d'un boys band, Harry Styles? C'était pas...
Mais il a fait ses preuves depuis...
Ah oui, bien sûr. Je plaisante, enfin, de Harry Styles.
Non, mais j'écoute pas, donc moi, je vais pas pouvoir m'exprimer ou donner mon opinion personnelle sur le sujet de est-ce que Harry Styles est un grand artiste, etc. Mais je sais qu'il est reconnu quand même dans le monde de la musique aujourd'hui. Il a fait ses preuves avec, d'accord, justement le bagage de boys band, parce que c'est quand même pas facile à se traîner. Ouais. Et donc voilà, je pense que tu pourrais faire la même chose avec les Beatles. Enfin, qui ne rêve pas d'avoir des nouvelles chansons des Beatles?
C'est sûr.
Enfin, oui, peut-être qu'il n'y a que moi qui en rêve, mais.
Ça serait marrant, et ça va arriver, hein. Ça va arriver complètement.
Ah oui, je pense, je m'étonne que ça ne soit pas déjà arrivé.
Ça sera marrant de voir la réaction. Et bien sûr, j'avais des posters de Harry Styles, c'était One Direction, non ? One Direction, peut-être ? Bon. Dans ma chambre, bien sûr. Non, j'étais un petit peu trop âgé déjà à ce moment.
Ouais, mais, quand même, là ça m'aurait inquiété, quoi.
Je ne connais pas Harry Styles, par contre, j'ai beaucoup apprécié Justin Timberlake dans sa deuxième carrière. Lyft, qui est une sorte de Uber qui n'est pas tellement présent en France, je crois, a annoncé Women Plus Connect. Alors, qu'est-ce que c'est que Women Plus Connect ? C'est une fonctionnalité qui permet aux passagères de choisir plutôt une conductrice qu'un conducteur. Alors, s'il n'y a pas de conductrice, ils vont tout de même choisir un conducteur, mais d'exprimer leur préférence pour une conductrice, ce qui est plus, limite plus un sujet de société qu'un sujet tech, mais je voulais le mentionner parce que je sais pas, on en est encore là, ou c'est, ça permet de faciliter les choses, ou... Bon, c'est,
moi, c'est les conductrices et les non-binary.
C'est ça, oui. Voilà, tout à fait. Conductrices et non-binary. Bon, je ne sais pas s'il y a forcément grand-chose de plus à dire là-dessus, mais c'est une fonctionnalité qui se prépare. Je ne serais pas surpris.
Bah, je pense que le contexte, c'est quand même... Enfin, j'ai lu cet article-là, et il mentionnait qu'il y avait quelque chose comme 4000 incidents de sexual harassment reportés à Lyft par an, qui est absolument monstrueux. Bon, ils font des millions et des millions de parcours, mais c'est quand même énorme. Et donc, le fait de donner aux gens la possibilité d'avoir ce choix, je pense que c'est une fonctionnalité qui n'est pas super compliquée à implémenter. Et c'est pour augmenter la sécurité des gens quand ils voyagent. Donc, c'est bien. Et j'espère que Uber va faire la même chose.
Ouais, en fait, on est un petit peu partagé. Enfin, personnellement, je vais parler pour moi. Je suis un petit peu partagé entre c'est bien et c'est frustrant qu'on en soit encore là. Mais en même temps, on en est encore là. Donc, il faut être concret un moment. Et si ça peut aider, bah, ça peut aider. Voilà, quoi.
Bah, 4000 incidents de sexual harassment, c'est pas rien. Hein.
Ouais,
c'est sûr.
Clair.
Meta est en train de se dire que la réalité virtuelle ne suffit peut-être pas à faire décoller sa plateforme Horizon Worlds, qui est leur monde virtuel en réalité virtuelle. Et donc, ils vont proposer l'application sur téléphone et sur le web. Ce qui est quand même un petit peu... Alors, c'est un environnement pour la réalité virtuelle. Et on va pouvoir se balader dans ces environnements et accéder tout simplement sans réalité virtuelle. Je me demande ce que ça veut dire sur la stratégie ou les ambitions ou les espoirs de Meta et de Mark Zuckerberg dans le domaine de la réalité virtuelle. Alors, on n'est pas dans la boîte, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire pour eux au niveau stratégique. Je ne peux pas m'empêcher de me poser un petit peu la question quand même, quoi.
On se pose un peu quand même la question de Meta verse de manière plus générale chez Meta, hein, non ?
Bah, même, je dirais, de métaverse, même en dehors de chez Meta.
Mais est-ce que ça existe en dehors de chez Meta ?
Pas vraiment, mais l'idée,
ah ouais,
l'idée
voilà.
existe, on va dire. L'idée
ils t'ont vendu un concept, mais personne n'y a vraiment pour l'instant accroché. Le problème, c'est que maintenant, ils ont carrément rappelé, ils se sont renommés Meta, donc c'est un peu coincé, quoi. Mais oui, c'est un petit peu compliqué pour eux, là.
C'est certainement compliqué. Et puis, disons qu'il y a toujours cette idée que, de toute façon, on savait que ça allait prendre du temps. Que le métavers, c'était un truc dont Zuckerberg a parlé, alors un petit peu pour... faire un tour de passe-passe et dire « regardez pas par ici, regardez par là » et puis donner des choses, de l'espoir de croissance et de l'ambition pour lui, je pense, et pour sa boîte. Mais je pense pas qu'il ait dit « ça arrive dans 2 ans ». Et sa présentation, elle date de quoi ? 2-3 ans. Donc je suis un petit peu, moi, là aussi, partagé. Je vais pas être définitif sur mon avis, mais je suis partagé entre « ça fait seulement 2-3 ans » et c'était des trucs qui étaient à l'horizon 5-10 ans. Pas 2-3 ans, donc c'est normal qu'on n'en ait pas grand-chose. Et en même temps, l'autre aspect, c'est « ouais, mais enfin, on en a quand même vraiment pas grand-chose. » C'est vraiment... Il n'y a aucune application, aucune... Si on parlait la semaine dernière des gens qui font des opérations dans des environnements virtuels pour s'entraîner, tu vois, des chirurgiens, mais c'est tellement ouais. particulier, c'est pas du tout de ça qu'on parlait, quoi. Donc, je sais pas, je suis partagé entre eux, bah non, en fait, ça donne rien, et puis de toute façon, c'est trop tôt. Je sais pas.
Je pense que c'est les deux. On le sait que c'est trop tôt. On sait que la technologie est pas encore au point. Il y a peut-être la manière dont ils ont géré justement ces attentes sur le temps de maturation peut-être de la technologie. On le voit même côté Apple. Hein, les gens se disent oh, Vision Pro, ils commencent déjà à avoir des doutes. Or Apple a très clairement dit quand même que c'était pas pour le grand public demain, quoi, qu'il y aurait minimum 5 ans. Mais on voit quand même de la pression où tout le monde les attend au tournant, etc. Mmh. Ouais, mais ne serait-ce qu'en termes d'application, je trouve que Voilà, en plus, c'est difficile de ne pas comparer quand même les deux. Pourtant, les deux ne font pas du tout la même chose et n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Et c'est là où je trouve que ça fait mal pour Facebook, quoi. Enfin, Meta.
Bah, d'autant plus que là, le fait de faire passer Horizon Worlds sur mobile, je comprends l'intention qui est de rendre l'application et l'environnement moins vide et plus utilisable. Super. Mais ça perd complètement l'aspect réalité virtuelle. Donc, est-ce que c'est du désespoir, enfin de la desperation?
Ça reste un réseau social.
Oui, oui, c'est pas faux. Ouais.
C'est un réseau social, et ce que sait faire Facebook, qu'ils ont mis un petit vernis de réalité virtuelle, et que maintenant, comme ils voient que réalité virtuelle, ça met un peu un frein à l'adoption, c'est quand même le critère aussi pour, avec l'effet de réseau, pour que ça marche, parce que s'il n'y a personne sur un réseau social, personne ne va venir sur le réseau social. On l'a vu avec notamment celui qui a marché là, de Facebook. Là,
oui, Fred.
Fred, merci. On le voit avec Threads, là ça fonctionne. Et donc ils ont ce problème
C'est une bonne,
de cold start. Là.
C'est un bon moyen de voir la chose en fait. Essayer de penser à Horizon Worlds peut-être comme un produit en tant que tel, un réseau social, plutôt qu'une extension des intentions de réalité virtuelle de Meta. Mais si on le considère comme un réseau social, je peux imaginer, je ne sais pas, que des enfants l'utilisent pour s'y retrouver, qu'on puisse y faire des trucs genre des salles de classe ou des excursions, des trucs. Il pourrait y avoir des choses pour lesquelles on l'utilise si tout le monde y a accès. Donc pourquoi pas ? Intéressant, je n'avais pas vu la chose comme ça. Merci Marion.
Mais je t'en prie.
Une autre...
De toute façon, juste pour ajouter un... Ça fait 8 ans, 9 ans que j'ai investi dans le domaine de la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Et en fait, on dit il faut encore attendre 5 ans avant que la technologie soit vraiment prête pour que des applications consommateurs soient utilisables. En gros, on ne sait pas. Et donc on dit ça va prendre 5 ans, parce qu'on pourrait dire 10 ans, mais en gros... quand j'ai investi, j'ai des copains qui ont investi en l'an 2000 et ça n'a pas marché. J'ai investi plutôt du côté, tu vois, en 2015 et ça n'a pas encore marché. Et je pense que c'est juste une technologie qui a besoin d'être tellement parfaite pour que ce soit utilisable et les applications ne sont pas super claires. Donc, de toute façon, ça va prendre du temps. Et même avec Apple, donc c'est intéressant qu'Apple ait attendu jusqu'en 2022-2023 pour s'y lancer dans le truc. Mais tu vois, tu rajoutes 5 ans, on verra.
Ouais, 2030, on va dire. Horizon 2030, peut-être qu'on en reparlera plus sérieusement.
Donc, ce sera le rendez-vous tech numéro 1500.
2030, est-ce qu'on sera encore là en 2030? Oh là là.
Oh, Patrick.
Non, mais dans l'émission, je veux dire, nous, j'espère qu'on sera encore là.
Est-ce que l'émission
avec la régularité légendaire du rendez-vous tech, quand même.
Il faudrait une sacrée tuile pour que l'émission n'existe plus, on est d'accord. Vous investissez dans l'avenir quand vous êtes patriote du rendez-vous tech. Dans l'avenir. Quelqu'un d'autre qui investit dans l'avenir, c'est Google. Oui, puisque les sociétés sont des personnes morales, donc quelqu'un, c'est Google, qui a décidé d'étendre les mises à jour logicielles des Chromebooks. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois de ça, on parlait du fait que les Chromebooks, dont énormément d'écoles s'étaient équipées, avaient des périodes de mise à jour logicielle de 3 ans et qu'on arrivait au bout des 3 ans, en 2024, il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme. Google a dit non, on va étendre à 10 ans les mises à jour de sécurité de tous les Chromebooks. Donc, en gros, même pour les tout, tout premiers, on en a encore pour 2 ans, a priori, hein, si j'ai bien compris, on a encore pour au moins 2 ans. Et ceux qui ont été achetés il n'y a pas si longtemps, ils auront 10 ans de mise à jour. Donc, ouf, les écoles auront des mises à jour plus longues que ce qui était prévu. C'est plutôt... bien de la part de Google, et ça, c'est un petit peu ils sauvent un petit peu de leur crédibilité.
C'est quand même étrange, quand même, pour pour les écoles ou les personnes qui vont faire un audit de quel type d'équipement on va utiliser, de ne pas se poser la question, quand même, de la durée de vie et du maintien de cet équipement. Surtout pour un secteur comme l'éducation qui ne roule pas sur l'or, qui a déjà des problèmes de budget criants, notamment aux États-Unis, on le sait. Et donc vraiment, je me pose vraiment cette question.
J'imagine que c'était pendant la pandémie, au début de la pandémie en particulier, les écoles se sont dit « bon, on doit acheter maintenant 3000 appareils, tu vois ». Et il y a des Chromebooks qui coûtent 300 boules pièce, ou alors des ordinateurs sous Windows qui vont nous coûter 650. Et du coup,
Ouais, mais ça a commencé avant. La montée des Chromebooks dans le secteur de l'éducation, c'est monté bien avant. Et jamais on a pointé du doigt aussi fortement ce manque de maintien, qui est d'ailleurs inadmissible. Enfin, je veux dire, il y a un minimum à maintenir. C'est 10 ans, ça ne me semble pas...
Je pense que c'est un truc encore auquel on ne pensait pas il y a 5 ans, tu vois. Il y a 5 ans, on n'était pas du tout... Aujourd'hui, ça semble évident et on se dit, un appareil, tu te rends compte, tu as 3 ans de mise à jour, mais c'est ridicule. 3 ans, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, tu dois le jeter ou en changer. Enfin, c'est honteux. Mais il y a 5 ans, et c'est facile d'avoir l'expérience et la connaissance, ou comment dire, c'est même pas la connaissance, c'est l'état d'esprit d'aujourd'hui et de l'appliquer à notre état d'esprit ou la situation d'il y a quelques années. Franchement, il y a 5 ans, on se disait « ouais, c'est pas super d'avoir des mises à jour de sécurité trop, trop limitées, tu vois, c'est pas bien ». Aujourd'hui, c'est juste hallucinant. Et donc, je pense simplement qu'il y a 5 ans, quand ils ont commencé à l'acheter, c'était normal. 2-3 ans de mise à jour de sécurité, c'était normal. Et après, tu fais quoi ? Tu l'envoies dans une décharge. J'exagère. Tu l'envoies au recyclage, du machin, mais c'était normal. C'est juste que c'est peut-être... Moi, je choisis, Marion, de le voir comme une bonne chose, de voir à quel point les choses changent véritablement et les esprits changent sans qu'on s'en rende forcément compte. Aujourd'hui, c'est
marrant parce que quand moi, j'étais, par exemple, durant mes études, le premier ordinateur où j'ai commencé à faire du design, c'était les Mac avec le dos en couleur, là, transparent, tu vois. Et c'était design. Des vieux dinosaures, quoi, déjà à l'époque.
iBook.
Et c'était déjà des vieux ordinateurs, quoi. Donc, il y avait quand même cette notion que, il y a déjà une dizaine d'années, je pense que les écoles se posaient ce genre de questions, parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas renouveler leur parc d'ordinateurs tous les ans. L'ordinateur n'est pas arrivé il y a 3 ou 5 ans, quoi. C'est quand même une problématique qui dure depuis pas mal d'années.
Peut-être qu'un recteur qui nous écoute pourra nous dire...
Je suis pas si jeune que ça, quoi.
Ouais, c'était il y a 3-4 ans que t'es... Non, c'est pas ça.
C'est seulement.
Automatic a annoncé que leur plugin pour WordPress, Automatic, c'est le développeur de WordPress, leur plugin ActivityPub 1.0.0 était disponible. Qu'est-ce que c'est que ce plugin ? C'est un truc qui permet à n'importe quel blog WordPress, à ce stade seulement ceux qui sont auto-hébergés à terme, ça sera aussi ceux sur WordPress.com, mais donc de rejoindre, j'allais dire le multivers, de rejoindre le Fediverse, vous savez, Mastodon, PixelFed, tout ça. C'est cool, mais je ne comprends toujours pas l'intérêt, je vous avoue. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais tu te rends pas compte, c'est super, ça veut dire que de n'importe quel service, de Mastodon, tu peux suivre un blog aussi. » Je dis « Oui, enfin, d'accord, je comprends comment ça fonctionne, mais est-ce véritablement intéressant ?» En même temps, j'utilise beaucoup les flux RSS, donc peut-être que ça peut être une alternative aux flux RSS, mais bon, en tout cas, si vous avez un blog WordPress, il peut désormais être sur le Fediverse, qui est peut-être plus, qui a plus de succès que le... Merde, c'est quoi le truc de méta ? Le...
Metaverse. Non, c'est pas...
Le Metaverse, voilà. Le Fediverse a plus de succès que le Metaverse. Panos Panay quitte Microsoft. Quelle tristesse. Ça fait 20 ans qu'il y est quand même. Mais c'est le Chief Product Officer. Vous savez, c'est celui qui nous parlait avec amour des derniers produits Surface. Il disait, nous avons fabriqué un textile à la texture tellement incroyable. Posez vos doigts dessus. Il quitte la boîte. C'est lui qui avait un petit peu donné le ton de la gamme de produits Surface. On verra qui prendra sa suite. Et dernière news, ARM est entrée en bourse. Une valeur de 60 milliards de dollars. Je suis sûr, Jeff, que tu as évidemment investi dans ARM.
Non, je n'ai pas investi dans l'ARM, mais c'est super que l'IPO se soit bien passée parce qu'on avait vraiment besoin. Il y a Instacart, qui est, dont le CEO est ma copine Fujisimo, une Française, qui va pricer ce soir et qui va aller sur le Nasdaq demain. Donc, on croise les doigts. Pour espérer un bon début pour elle aussi. Parce que on a besoin, on a vraiment eu très 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 peu d'IPO et d'exit, de sortie de M&A cette année, et on a besoin en fait que le marché reparte pour que l'innovation continue à être financée. Et sur ces mots, je vais vous laisser parce que c'est l'heure pour moi de passer mon prochain meeting. C'était un plaisir, un bon anniversaire mon Patrick, je te fais un gros bisou et puis.
File. Je vous laisse. Les fais pas attendre. Fois. Merci Jeff. @Jeff sur Twitter, sur X. Ciao Jeff. De toute façon, on est au bout. Hein. On est nous aussi. On va se quitter. Ah mais Jeff est revenu. Tu voulais me refaire un bisou, c'est ça? Non, je sais pas. Il est reparti.
Un petit fantôme.
On a fini également sur cette remarque de Jeff. Donc, un grand merci, Marion, d'avoir été dans l'émission. Comme toujours, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ou ailleurs? Je ne sais pas, tu choisis.
Vous pouvez me retrouver tous les mardis matins sur Twitch, sur la chaîne Naotech Team, pour débriefer de l'actualité tech à 8h du matin. Et sinon, sur Twitter, X, c'est très bizarre de dire ça. Vous pouvez me retrouver sur X, @EiseaDesign. Je ne sais pas trop si j'ai vraiment envie de le dire.
Ouais, on est toujours un petit peu... Tu vois, s'il y avait le Threads, on serait tranquille. On pourrait tous aller sur Threads. Ça serait le réseau social.
Tu sais que je vois les tests sur Instagram qui me poussent les threads de mon compte que j'avais installé sur un smartphone qui avait un App Store américain. Et donc, du coup, je ne peux pas y accéder. Ça fait crasher Instagram quand j'essaie de cliquer dessus. Parce qu'il ne doit pas comprendre que je m'étais installé threads sur un autre smartphone qui avait accès aux US.
Mm-hmm. Mais moi, je l'avais installé avant qu'il le coupe. Je l'avais aussi installé avant qu'il ne coupe. J'avais réussi à tomber dans les 4 heures où il y avait une appli Test Flight ou un truc comme ça qui m'avait permis de l'installer et de me créer un compte, en fait. Je ne sais plus comment ça s'était passé. Et oui, il ne comprend pas non plus. Mais bref.
Et donc, c'est bizarre. Maintenant, on a les threads dans Instagram.
Alors, attends. Est-ce que moi, j'ai les threads dans Instagram aussi?
Alors, je l'ai vu une fois. Hein.
Instagram.
J'ai fait une capture d'écran tellement j'étais étonnée.
Quoi ? Je vous jure.
Bah, ouais, non, mais du texte dans Instagram, quoi.
J'en ai pas revu. D'accord, peut-être.
J'en ai
que
pas
toi,
revu hein, depuis que ça m'est arrivé qu'une fois. Ouais.
C'est différent, ouais. C'est différent, c'est possible. Donc, Fred, pour que quelqu'un nous convainque d'aller sur le. Enfin, qu'on voudrait aller sur le réseau de Mark Zuckerberg, et que vraiment. Il y aurait des choses à dire sur X, hein, mais on peut s'abstenir. Il collabore avec le gouvernement... collabore, le choix. Le gouvernement allemand, le choix du terme collabore est peut-être mal choisi. Mais non, il collabore pour donner les infos sur les crimes d'incitation à la haine raciale, alors qu'ils ont beaucoup résisté par le passé. Donc, tu vois, c'est à la fois bien et pas bien, parce que tu vois, là, ils ont carrément ouvert les vannes. C'est genre, OK, allez-y. Alors, tout ce que le gouvernement demande, il semblerait, hein, c'est ce qu'on entend. Et bref, on pourrait en parler plus de Twitter, mais
c'est un bon sujet, oui.
C'est un sujet trop, trop fréquent, beaucoup trop fréquent. Merci Marion. Pour ma part, c'est Note Patrick. Vous savez que vous pouvez me retrouver à peu près partout. Et vous pouvez me retrouver pour l'IRL du 20... C'est le combien ? Merde, j'ai oublié. En octobre, le 21 octobre, on va juste à côté du Sacré-Cœur. On va se retrouver à 16h, samedi 21. Donc, n'oubliez pas de réserver votre date. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Discord pour passer de bons moments à discuter, sur Twitch le mardi et le jeudi. Alors aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on a une connexion directe avec la Silicon Valley, donc on enregistre à un autre moment. Mais d'habitude, c'est le mardi et le jeudi midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et bien sûr, vous savez que c'est sur patreon.com/rdvtech que les choses se passent. C'est là-bas qu'on peut devenir un Patreon, un patriote de l'émission. Et c'est donc là-bas qu'il faut aller quand on apprécie le rendez-vous tech. patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à toutes. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.